pas si vous vous souvenez de là. Alors, moi, je prenais l'exemple des pompiers de Paris. Quelqu'un m'a dit, mais tu sais pas que l'armée du salut, ça faisait partie d'une de leurs devises. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire, l'armée du salut, en tout cas au début, sur leur uniforme, ils avaient gravé S et S. Ça voulait dire sauver pour servir. Et c'est vrai que nous sommes aussi, nous avons été aussi sauvés pour servir et que ça soit non pas un slogan. Les slogans, c'est bien, ça permet de se souvenir, mais que ça soit une réalité dans nos vies. La semaine dernière, on a vu comment, pourquoi plutôt, pourquoi est-ce que nous sommes appelés à servir le Seigneur et que ce service, ça consiste en fait à donner notre vie à Dieu. Mais ce matin, nous allons voir comment servir. Et la première particularité du service que nous allons voir, servir avec sérieux. Ça vous va? Si vous n'êtes pas content, vous restez quand même, je pense que c'est bien quand même, parce que c'est la parole de Dieu. Dans le psaume 2, verset 11, psaume 2, verset 11, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui a prévu que ce texte soit écrit depuis des années et des années en arrière. Psaume, chapitre 2, verset 11, un simple verset, mais qui est très clair quand même. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous comment? Avec tremblement. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Et on voit déjà que dans ce verset, Dieu prépare le terrain en disant, oui, il y a du sérieux à servir le Seigneur. Il faut pas le faire n'importe comment, mais il y a de la joie aussi. Dieu est équilibré. Et c'est pour ça qu'il est dit, réjouissez-vous avec tremblement. Est-ce que c'est un tremblement de peur? Est-ce que c'est un tremblement de terreur? Bien sûr que non. C'est un tremblement dans le souci de vouloir bien faire. Mais quand même, on a le droit de se réjouir. D'ailleurs, c'est le thème de la semaine prochaine, servir avec joie, servir avec la joie que le Seigneur met dans notre cœur, le fardeau qu'il nous donne, il est doux et léger. C'est agréable, le service pour Dieu. C'est important de l'équilibrer avec ce qu'on dit aujourd'hui. Mais les deux aspects du service sont tellement et tellement importants. Servir le Seigneur, ça doit se faire de manière sérieuse. Quelqu'un a dit l'important, ce n'est pas d'être sérieux. L'important, c'est d'être sérieux avec les choses importantes. Et c'est pas idiot ce qui est dit là. Donc la question qui se pose, c'est quelles sont les choses importantes pour vous? Alors peut-être il y en a qui vont me dire, pour moi, c'est ma santé. Pour moi, c'est ma famille, pour moi, c'est mon travail, pour moi, c'est mes finances, pour moi, c'est ceci ou cela. Et on le comprend, mais on est hors sujet, parce qu'on est dans le sujet du service pour Dieu. Donc, quelle est ma priorité dans le service pour Dieu? Quelle est la priorité que Dieu dit concernant son service? Qu'est-ce qui est important à ses yeux? C'est ça qu'il faut, c'est ça avec lequel il faut être sérieux. Bien sûr que tout le reste est important et Dieu va nous donner, Dieu va nous bénir. Quand on s'investit pour le royaume de Dieu, Dieu nous bénit par derrière. C'est des promesses que le Seigneur nous a dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Il a quand même été clair, le Seigneur. Mais ça implique pour nous que nous soyons sérieux. Alors sérieux déjà avec ce que j'ai appelé la priorité. Qu'est-ce que c'est la priorité? La priorité du service, c'est quoi? C'est simple. C'est pas de faire, mais c'est d'être. Ça va? La priorité du service, ce n'est pas de se déployer dans toutes sortes de bonnes œuvres, mais c'est d'être déjà un serviteur. C'est d'être une personne qui est au service de Dieu de manière entière, dans toute sa vie, pas seulement le dimanche matin, quand il s'agit de garder les enfants, ou quand il s'agit de faire chanter, ou quand il s'agit de faire quoi que ce soit, de prêcher, mais qui est au service de Dieu toute sa vie, minute après minute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, an après an, et on pourrait multiplier siècle après siècle, pour ceux qui vont vivre plus que le siècle. En tout cas, toute ma vie, je la consacrerai au Seigneur. On confond souvent les moyens et les buts. Les services que l'on fait, les choses pratiques que l'on fait dans l'église ou ailleurs, ce sont des moyens. Mais le but, c'est que nous soyons des serviteurs. Le but, c'est que nous soyons des personnes au service du Seigneur. Le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le fruit de l'esprit, c'est de ne jamais se fatiguer? Le fruit de l'esprit, c'est de toujours faire le ménage, c'est de toujours prêcher? C'est quoi le fruit de l'esprit? Ça nous parle du caractère. L'amour, la paix, la joie, la patience. Bien sûr, ça se répercute dans toutes les activités que l'on fait. Mais le fruit de l'esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit. C'est manifester la nature divine au travers de notre vie. C'est incroyable ce que Dieu nous met devant nous. Mais c'est la priorité. Combien c'est important de pouvoir réaliser ces choses. Être un serviteur, ça veut dire déjà être vivant. Vous allez me dire, c'est logique. Regardez dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Un texte qui nous parle justement du service de manière très claire, encore une fois, et qui nous parle de à quel moment on peut commencer à servir. Hébreux chapitre 9, verset 14. Vous savez qu'Hébreux, c'est un texte, une lettre qui explique tous les parallèles entre l'ancienne alliance, la loi, et puis la nouvelle alliance, la grâce. Il y a des choses incroyables qui sont données, des explications par rapport à l'Ancien Testament. Si vous voulez comprendre l'Ancien Testament, si l'Ancien Testament est compliqué pour vous, c'est normal, lisez Hébreux, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et en particulier, il parlait des sacrifices qui étaient faits. Mais là, il y a une comparaison qui est faite avec le sacrifice de Jésus. Au verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience de quoi ? Des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Donc vous êtes d'accord pour dire que avant de servir le Dieu vivant, il faut qu'on soit purifié des œuvres mortes. Ça va, c'est ce qu'on vient de lire. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi les œuvres mortes? Qu'est-ce que c'est les œuvres mortes? Qu'est-ce que vous en pensez? J'entends pas. Ceux qui glorifient pas Dieu, oui. Le péché, on pourrait dire de manière simple. Mais encore, c'est déjà bien. L'ancienne nature, alors, pas tout à fait. On pourrait dire ceux qui... Les actions qui découlent de l'ancienne nature, pour être exact. Ça va pour tout le monde? Moi, j'ai dit les choses de manière simple. Les œuvres mortes, c'est soit ce qui conduit à la mort, donc le péché, ou soit les œuvres des morts. Vous allez dire, mais comment un mort peut-il avoir des œuvres? Un jour, à des obsèques, j'ai dû donner cette parole. Je crois vraiment que le Seigneur parlait à quelqu'un de manière précise. Je leur ai dit, la personne qui est là dans ce cercueil, qui est partie, elle est morte physiquement, mais spirituellement, elle est bien vivante. Par contre, dans cette salle, il y a des gens qui sont vivants physiquement, mais qui sont morts spirituellement. Et là, on commence à comprendre plus précisément c'est quoi les œuvres mortes. Les œuvres mortes, ce sont les œuvres de personnes qui sont mortes spirituellement. Et que ça soit des œuvres même pour Dieu, que ça soit même des œuvres de charité, que ça soit même des œuvres, des aumônes que l'on va donner à des gens qui sont affamés dans la rue, ce sont... Tout ça, ce sont des œuvres mortes. D'accord? Bien sûr qu'il y a les choses que nous faisons de mal, la méchanceté, l'enrichissement personnel, au mépris des gens qui sont autour de nous. Tout ça, c'est mal, c'est mort, on le sait, mais aussi les choses qui sont bonnes. Mais quand nous, on est mort intérieurement, ce sont des œuvres mortes. Voilà pourquoi, avant de pouvoir servir le Seigneur, avant de pouvoir faire quoi que ce soit pour Dieu, avec notre nature qui est justement souillée par le péché, il faut que Dieu nous donne une nature nouvelle. Il faut que notre conscience soit purifiée des œuvres mortes avant de pouvoir faire quoi que ce soit pour Dieu. Combien c'est important de réaliser que le serviteur, d'abord, il doit être vivant de la vie de Dieu, de la vie éternelle que le Seigneur veut lui manifester. Dans Romains chapitre 12, verset 1er, vous connaissez ce texte qui nous dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu. » Et combien elles sont grandes, les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez, encore une fois, un sacrifice d'abord vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si on regarde les mots littéralement, ce qui sera de votre part un service logique. Le service logique pour Dieu, c'est un sacrifice qui est d'abord vivant, d'une personne qui a la vie de Dieu. Le sacrifice que Dieu agrée, c'est aussi un sacrifice saint. Quand on a la vie de Dieu, Dieu nous voit saints, et il nous voit saints aussi longtemps qu'on marche dans la sainteté. Si on est saint et qu'après on fait n'importe quoi dans notre vie, on s'éloigne, on se sort de la mise à part que le Seigneur a mis pour nous. Et on ne peut plus servir Dieu. Tout ce qu'on va faire ne servira à rien jusqu'au moment où on va dire, Seigneur, je te demande pardon, je me suis égaré et je reviens à toi. Combien on a intérêt à réaliser que le serviteur, c'est aussi un être saint. Non pas qu'on soit parfait. Vous savez tous, chacun pour soi, on le sait très bien qu'on n'est pas parfait. Mais le Seigneur nous invite à marcher dans la sainteté, à nous sanctifier, à être mis à part, à ce que nos actions tranchent des actions de ce monde parce que nous marchons dans le bien, nous marchons dans la vérité. Ça ne veut pas dire que dans le monde, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de vérité, etc. Il y a des gens qui sont sérieux avec ces choses-là et qui ont besoin de la dernière étape, c'est-à-dire que la vie de Dieu jaillisse dans leur cœur. Mais pour nous, qui avons déjà la vie de Dieu, on a besoin que cette vie se manifeste dans tous les domaines de notre existence. Accepter Jésus par la foi, croire que sa mort nous donne la vie, que notre péché peut être pardonné, que sa sainteté devient notre nature à nous, c'est super, mais il faut rester. Il faut s'efforcer de demeurer dans cette grâce que le Seigneur nous donne. Et c'est ça la sanctification, c'est cette marche dans l'obéissance. Je me mets à part de ce monde par mon obéissance. Je ne vais pas habiter dans une caverne. Je ne sais pas si vous connaissez une grotte dans le coin, mais ça ne sert à rien de toute façon d'y aller, parce que le Seigneur nous demande d'être dans le monde, mais de ne pas être du monde, de ne pas être dans le même état d'esprit. D'ailleurs, la suite du verset, vous la connaissez, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Mais soyez transformés. Et combien on a besoin de la transformation du Seigneur? Combien on a besoin que notre nature pécheresse soit transformée en une nature sainte, qu'on soit participant de la nature divine? Ce sont les expressions de la Bible quand même. Ça nous encourage et en même temps, ça nous met des défis, hein. Mais c'est pour cela qu'on a besoin de rester près du Seigneur. Et la troisième caractéristique qui nous marque que la priorité du serviteur, le serviteur, c'est un témoin. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous ne rendrez pas témoignage, même si ça va découler. Vous serez mes témoins. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, vous êtes maintenant des témoins, et vous avez une mission, vous avez un travail. Combien c'est important, si nous voulons servir le Seigneur, que nous soyons déjà des vivants de la vie de Dieu, que nous soyons dans la sanctification, et que nous soyons aussi des témoins, des personnes qui témoignent de quoi ? Qui témoignent de la réalité que Jésus est celui qui sauve. Que soyons des personnes qui ont la passion des âmes, qui désirent que d'autres âmes soient sauvées, d'autres âmes passent des ténèbres à la lumière. Le désir, c'est pas que les gens viennent dans l'église grandir le groupe, c'est pas ça le désir. Bien sûr qu'on serait content, mais le désir principal, la priorité, c'est que des hommes et des femmes soient sauvés, peu importe l'endroit où ils vont après, qu'ils soient sauvés et dans le royaume de Dieu. C'est ça la raison d'être du serviteur. Et quel que soit le service dans lequel je m'investis, c'est ça la priorité. Quel que soit le service, je répète bien. Alors il y en a, vous allez me dire, c'est facile, quand on prêche, bon... C'est normal que ce soit la priorité du prédicateur. Oui, quoique. Il peut y arriver parfois des pasteurs qui prêchent pour d'autres raisons. Quand on enseigne aux enfants, c'est sûr que derrière l'enseignement aux enfants, le but, c'est que ces enfants connaissent le Seigneur. Quand on fait l'évangélisation dans la rue, le but, il est évident, c'est que les gens soient sauvés. Mais quand je passe le balai, c'est quoi mon but? Est-ce que c'est juste la propreté du lieu de culte? Bien sûr que c'est bien. Et il faut que ça soit comme ça. Il y a une dame qui disait à Spurgeon, elle a dit « Un jour, j'ai compris que j'étais vraiment converti. » « Ah oui, et quand ça, madame ?»« Eh bien, c'est quand j'ai commencé à balayer sous le paillasson. » Parce qu'avant, je balayais et je mettais tout sous le paillasson. Je balayais là où le propriétaire voyait que je balayais. Mais quand je me suis converti, j'ai compris que Dieu voyait même sous le paillasson. Alors, j'ai balayé là et j'ai compris que j'étais vraiment converti. Qu'est-ce que nous faisons dans le secret? Est-ce que nous avons conscience que nous sommes devant Dieu? Même quand on passe le balai, notre désir, notre priorité, c'est quoi? C'est le salut des âmes, c'est que les gens qui viennent dans ce lieu puissent voir que c'est propre et que rien ne détourne l'attention pour entendre la bonne parole. Quand je conduis les chants, c'est exactement cela. Bien sûr qu'on cherche à avoir la bonne musique, on cherche à avoir des paroles qui sont sérieuses, mais dans le but que les gens puissent ouvrir leur cœur à la présence du Seigneur. Et dans tous les services, vous pouvez les prendre les uns après les autres. Le La priorité, c'est le salut des âmes. Et peut-être ce matin, quelqu'un a besoin de se rafraîchir la mémoire par rapport à cela. A besoin de retourner dans sa chambre et de dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur que je réalise que c'est ça la priorité dans ma vie. La priorité, quel que soit ce que je fais, la priorité en étant un bon père, c'est quoi? C'est que mes enfants soient sauvés. C'est que, en étant un bon mari, c'est que ma femme soit dans un contexte où elle est sauvée. Etc. Mais mon voisinage et mes collègues de travail, tout ce que je fais, le but derrière, c'est que les personnes puissent être sauvées. Alors, il y a des choses qui nous appartiennent, il y a d'autres qui nous appartiennent pas. On le sait très bien. Mais déjà, nous, ce que nous voulons faire en tant que serviteurs, c'est mettre notre vie tout entière devant le Seigneur. Et peut-être quelqu'un va dire, Seigneur, je veux me tenir devant toi et je veux que tu me remontres ta façon de voir les choses. Parce que vous savez, on peut vite tomber dans les façons, les méthodes du monde. Ah, pour servir, pour faire le ménage, il faut employer le meilleur produit, ceci ou cela. Bien sûr, on fait le maximum pour se perfectionner, mais le plus important, c'est le salut des âmes. Les personnes qui rentrent dans ce lieu, les personnes avec qui on est en contact, les personnes à qui on peut parler du Seigneur. Voilà les priorités. Et servons Dieu sérieusement, ça veut dire soyons sérieux avec les priorités de Dieu. On va aller dans 1 Chronique, au chapitre 13. C'est ce texte que le Seigneur a appuyé sur mon cœur pour cette matinée. 1 Chronique, chapitre 13, verset 1er, ça nous montre le sérieux avec la parole de Dieu. Dieu veut que l'on soit sérieux avec sa parole. Il ne veut pas qu'on serve n'importe comment. Et c'est une histoire qui est arrivée à David et puis aux personnes qui étaient là, auprès de lui. 1 Chronique 13, verset 1er. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyant de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Est-ce que c'était bien? Regardez ce qu'il dit. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tous, à tout le peuple. Donc c'était quand même une bonne chose que l'arche de l'Alliance, qui représentait la présence de Dieu, soit ramenée dans la ville principale, la capitale. Alors David assembla tout Israël depuis le Chishon d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjat Jearim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baalaa, à Kirjat Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uzag et Akjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant, en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Est-ce que c'était bien de chanter de toute leur force le Seigneur? Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uzza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et dit, « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» Amen. On s'arrête là, on va aller un peu plus loin par la suite, mais déjà, réfléchissez à ce qui s'est passé. Une fête merveilleuse, tout le monde loue le Seigneur de tout son cœur, la musique des musiciens, des chanteurs, quelque chose d'incroyable. On imagine ce que c'était, toutes les tribus s'étaient rassemblées pour pouvoir faire en sorte que ce jour soit un jour de fête. Le but c'était quoi? C'était que l'arche soit ramenée à la capitale, donc c'était un but quand même spirituel. On est d'accord? C'était un bon but. Oui, mais regardez la question avec laquelle j'ai terminé, que David a posée. Comment ferais-je entrer l'arche de Dieu? Le problème dans cette histoire, c'est que David, après coup, il se demande comment est-ce que je dois faire pour faire entrer l'arche de Dieu? Alors qu'il aurait dû se poser la question avant. Est-ce que Dieu l'avait dit? quelque part, de quelle manière l'arche devait être transportée. Bien sûr, si vous étudiez la parole de Dieu, si vous étudiez la Bible, vous voyez que Dieu a institué des personnes très précises qui devaient porter l'arche d'une certaine manière très précise. D'où est venue l'idée de mettre l'arche sur un char neuf? Est-ce que vous le savez ça? Si vous lisez la parole, si vous lisez Samuel par exemple, donc c'est les livres d'avant, vous réalisez que l'idée de mettre l'arche de l'Alliance sur un char neuf, elle est venue des prêtres de l'idole Dagon des Philistins. Elle est venue des personnes qui pratiquaient les sciences occultes dans le pays des Philistins. C'est eux qui ont eu l'idée de mettre l'arche de l'Alliance sur des chars neufs. Et David n'a pas cherché plus loin. Son désir était bon, il avait de bonnes intentions, tout le peuple était là, ils étaient dans un bon état d'esprit, mais ils ont oublié de respecter la parole. Et le résultat, c'est quand même qu'il y a un homme qui est mort. Alors, vous savez que c'était la dispensation de la loi, aujourd'hui on est sous la dispensation de la grâce. Il n'empêche que c'est toujours dangereux que de ne pas respecter la parole, que de ne pas être sérieux avec la parole de Dieu. C'est dangereux pour nous, ce sont des choses qui sont mortelles, au moins du point de vue spirituel. Et combien on a intérêt à rester fidèle à l'obéissance du Seigneur. Les prêtres de Dagon, ce sont eux qui ont donné l'idée. Est-ce que ça vous rappelle pas justement ce fait de se conformer au siècle présent? Je veux servir le Seigneur, je veux faire des choses pour Dieu, je veux être une bénédiction, mais j'utilise des moyens du monde. Je cherche pas dans la parole de Dieu comment faire. Et le résultat, c'est que c'est pas la vie qui est donnée, c'est la mort. Et pendant 3 mois, David, il est resté frustré, déçu, terrifié. Enfin, on peut imaginer tous les sentiments qu'il a eus. Culpabilisé parce qu'il a compris qu'un homme quand même était mort de sa faute. Vous imaginez? Mais regardez comment il a réagi au verset 1er du chapitre 15. 1 Chronique 15, verset 1er. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit pas être portée ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il avait préparée. Amen. L'arche ne pouvait pas être portée n'importe comment, et David l'a compris à ce moment-là. David, il a sûrement, à la suite de cette histoire qu'on a lue, il a sûrement ouvert la loi, il a sûrement demandé des conseils aux uns et aux autres qui étaient là autour. Il a sûrement plongé ses soirées dans la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est tellement important quand dans notre service, on ne porte pas le fruit que l'on comptait porter. C'est tellement important de prendre ce temps sérieusement avec la parole de Dieu et de dire « Seigneur, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui ne va pas ?» David, il a lu, mais voilà, la façon dont devait être transportée l'arche, 4 Lévites, 4 personnes mises à part du peuple de la tribu de Lévi, qui devaient s'être sanctifiées au préalable et qui devaient porter l'arche avec des bâtons sans être en contact avec elle directement. Et combien c'était important? Parce que c'est une image aujourd'hui de celui qui veut servir dans l'Église, qui veut soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu dans l'Église ne peut être soutenue que par des personnes qui ont été mises à part. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une élite? Ça veut dire que c'est les meilleurs d'entre nous? Donc c'est-à-dire que c'est surtout vous, pas moi, parce que c'est les meilleurs? Ça veut dire ça? Mais non. Qui c'est qui est mis à part dans l'Église? Alors, voilà. Tous ceux qui sont dans l'Église sont mis à part, c'est aussi simple que ça. Tous ceux qui sont dans l'église avec un grand E, pas dans la pièce, pas dans le local. Tous ceux qui sont dans l'église, dans le corps de Christ, ceux qui ont fait la paix avec Dieu, ceux qui ont été pardonnés dans leurs péchés, ils sont automatiquement mis à part, ils sont automatiquement saints. Le mot saint et le mot mis à part sont quasiment pareils dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut se servir que de personnes qui sont sanctifiées. Que de personnes qui marchent dans l'obéissance, qui disent « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te plaire ?» Alors, j'entendais un témoignage une fois de quelqu'un qui était dans une église. Je ne sais pas où c'était et je veux pas le savoir, mais le chantre est arrivé à l'heure pile pour faire les chants. Et puis, il a fait son service de chant, et puis il est reparti aussitôt qu'il avait fait chanter. Et puis, quand le pasteur a su par la suite pourquoi il était parti, c'est parce qu'il y avait un match de foot à la télé, il voulait pas le louper. T'imagines ? Est-ce que ça, c'est servir le Seigneur avec sérieux ? Est-ce que c'est ça, de cette façon-là, que le Seigneur nous appelle à le servir ? Est-ce que c'est ça l'enseignement de la parole de Dieu ? Vous allez dire, oh, mais c'est pas très grave, un match de foot, qu'est-ce que c'est ? Oui, mais on parle de l'œuvre de Dieu. Et que soyons sérieux nous-mêmes, soyons sérieux avec nos priorités. Est-ce que nous voulons que Dieu se manifeste ? Est-ce que nous voulons l'approbation de Dieu ? Et alors, ça va demander de se conformer à ce que Dieu nous dit dans sa parole ? Ou alors, faisons les choses comme on veut, et alors, rien ne va se passer. Ou alors, des malédictions vont se tomber sur nous, dans le pire des cas. On l'a chanté tout à l'heure, c'était bien de le remarquer, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont des sacrificateurs, sont des personnes qui ont le droit de porter l'arche, dans le droit de soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu veut utiliser pas une vache, pas un animal comme ça qui sert à rien. Il veut utiliser des hommes et des femmes qui vont porter l'œuvre de Dieu sur leurs épaules, mais qui ont été mis à part au préalable. Et c'est ça, servir le Seigneur avec sérieux. Et même si l'arche commence à pencher, la vache, elle pouvait pas faire en sorte que l'arche ne penche pas, mais les hommes qui portent l'œuvre de Dieu, même si l'arche penche, ils vont faire en sorte, eux, de jouer avec leurs genoux pour que l'arche reste droite. Comprenez la différence. Il y avait quatre personnes qui portaient l'arche comme ça. Et même s'il y avait de la pente, ça ne gênait pas. Il n'y avait aucun problème. Parce qu'ils s'adaptent. Parce que le plus important, c'est que l'arche, la présence de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est que la présence de Dieu reste au milieu de nous et que la présence de Dieu soit manifeste au milieu de nous. Regardez ce qu'il est dit au verset 14. Les sacrificateurs et les lévites se sanctifièrent. Se mirent à part pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. C'est pas David qui a eu une sublime idée d'un coup, mais il l'a trouvé dans la parole. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luths, des harpes et des cymbales, qu'il devait faire retentir de son éclatant signe de réjouissance. La réjouissance, elle y était quand même, mais il y avait la crainte de Dieu, vous voyez ? Le respect de la parole de Dieu et la réjouissance. Et au verset 25, David, les anciens d'Israël, les chefs de milliers, se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, depuis la maison d'Obed-Edom, au milieu des réjouissances. Ce fut avec quoi ? Avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Ça change de la première fois. Ce fut avec l'assistance de Dieu. Est-ce que nous voulons l'assistance de Dieu dans notre Église ? Ou est-ce que nous voulons servir Dieu comme nous le voulons nous ? Est-ce que moi j'ai envie de prêcher sur tel sujet, donc je vais prêcher sur tel sujet ? Croyez-moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie, parce que je sais que ce que j'ai à cœur, c'est pas forcément ce que Dieu a à cœur, et je veux me tenir devant Dieu pour recevoir sa pensée, pour la communiquer à l'Église. Et je crois que c'est ce que nous devons faire, les uns et les autres, quel que soit notre service, que ça soit même dans l'Église ou au dehors, dans notre famille. Le Seigneur nous appelle à agir, à le servir avec l'assistance de son Saint-Esprit et au milieu des réjouissances. Servons Dieu sérieusement, soyons sérieux avec la parole de Dieu. Et on va lire un dernier texte dans Luc, au chapitre 2, verset 36. Il faut être sérieux avec les priorités, le salut des âmes, sérieux avec la parole de Dieu. Et Luc nous montre une femme qui était sérieuse dans son service, dans la prière. Luc chapitre 2 verset 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Elle servait le Seigneur de quelle manière ? Dans le jeûne et dans la prière. La prière, c'est le premier service du chrétien. Le croyant qui se donne au Seigneur, la personne qui fait la paix avec Dieu, le premier service auquel Dieu l'appelle, parce que c'est le service le plus facile à mettre en place, on peut le faire dès l'instant où on est seul avec le Seigneur dans notre chambre, c'est la prière. Cette femme, malgré son âge avancé, 84 ans, elle avait choisi de dédier sa vie à la prière. Et vous remarquerez que si c'est le premier service qu'on peut faire, la prière pour Dieu, avant de recevoir les validations de remplir les critères pour les services dans l'église, vous remarquerez aussi que c'est le dernier service qu'on peut faire pour le Seigneur. Parce que quand on n'arrive plus peut-être à sortir de notre lit parce qu'on est âgé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des douleurs, parce que 84 ans, ça fait un certain âge. Tout à l'heure, je sais plus, je lisais un homme qui avait 98 ans. Mais pour peu importe l'âge, à un moment donné, notre corps, il s'affaiblit. Mais qui peut nous empêcher de prier? Quelle douleur sur la terre peut nous empêcher de prier? Je parle d'une douleur physique. Il peut y avoir des douleurs morales, des difficultés qui font que pendant un temps, on a du mal. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher physiquement de prier? Rien. Même la persécution, si sur notre pays se levait une persécution contre les croyants, personne ne pourrait nous empêcher de prier. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Et c'est ça qui est merveilleux avec la prière. Et c'est tellement important d'être sérieux. Cette dame, elle avait choisi de dédier sa vie. Pourtant, quand elle a perdu son mari, on imagine qu'elle était jeune encore. Mais elle a choisi de dédier le reste de sa vie. Elle a donné 7 ans à son mari avant qu'il meure. Mais le reste de sa vie, elle a donné à Dieu. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire systématiquement. Mais en tout cas, elle a vécu quelque chose de particulier, c'est que dans sa prière, je suis sûr qu'elle a dit « Seigneur, viens nous visiter, envoie le Messie que tu as promis ». Elle lisait la parole, elle dévorait la parole, elle regardait les promesses. « Seigneur, envoie ton Messie sur notre pays ». Et puis un jour, alors que Jésus est dans le temple avec ses parents, tout bébé, elle survient à ce moment-là comme par hasard. Pourquoi? Parce qu'elle s'est tenue dans la prière et Dieu lui met à cœur d'y aller. La même manière que Siméon, qui était juste au-dessus, dans les versets, c'était un homme qui a vu, il attendait la consolation d'Israël et Dieu lui a dit « Va dans le temple, tu vas l'avoir ». La consolation, c'est Jésus. Quand on est dans la prière, quand on prie devant le Seigneur conduit les temps et les circonstances. Notre journée ne sera pas aussi bénie si nous ne prions pas que si nous prions. Je ne sais pas si vous avez cette habitude de prier pour votre journée, de prier pour les fois où vous devez parler, de prier pour les fois où vous devez dire quelque chose de difficile à quelqu'un, mais ça sera jamais aussi efficace si vous ne priez pas que si vous priez. Quand vous priez, il y a une liberté qui vient de la part du Seigneur, il y a une facilité dans votre langage. Je peux vous le dire, je sais ce que c'est, parce qu'à chaque fois que je prêche, pour moi c'est un combat, mais je dis « Seigneur, donne-moi la liberté d'apporter ta parole ». Et je sais que dans la prière, c'est là que je remporte la victoire. Tout le reste n'a aucun sens sans la prière. Si je passe le balai dans l'église, je ne mets pas la pression sur ceux qui font le ménage, hein. Vous inquiétez pas, je cible personne. Mais si je passe le balai dans l'église, mais que jamais je laisse le Saint-Esprit passer le balai dans mon cœur, à quoi ça sert, franchement? Dans la prière, Dieu sonde mon cœur. Dieu me montre les choses qui ne vont pas. Il le fait avec tellement de délicatesse, avec tellement de soin. Et il transforme mon caractère. Quand on contemple la face du Seigneur, on est transformé de gloire en gloire. Et Dieu nous place dans les bons endroits. Vous savez qu'il y a des moments dans nos vies où il faut qu'on soit au bon endroit. Il y a des fois des prières que l'on fait qui font en sorte qu'après on a à cœur d'aller dans un endroit et le Seigneur, dans cet endroit-là, nous donne une réponse à la question qu'on vient de lui poser. Et si on n'avait pas prié, on n'aurait jamais pensé aller à cet endroit-là. Mais le Seigneur est celui qui nous parle. La prière personnelle, c'est une puissante manifestation de foi. On s'en rend pas compte, mais quand je prie le Seigneur dans ma chambre, je suis en train de déclarer que j'ai la foi dans le Seigneur, parce que personne ne me regarde, sauf Dieu, sauf les anges, sauf le diable, sauf l'enfer. Mais sinon, personne ne me regarde. Mais c'est quand même important parce que c'est une déclaration de foi. Justement, aucun être humain n'est là pour m'applaudir en disant « Ah, il a passé 30 minutes dans la prière aujourd'hui, alléluia, il va être béni ». Non, il n'y a personne. Et peut-être on ne va rien ressentir. Mais on sait qu'on est dans la volonté de Dieu parce qu'on veut être sérieux dans la prière. La prière, c'est ce qui définit le vrai serviteur. Dis-moi quelle est ta vie de prière et je te dirai quelle sorte de serviteur tu es. Dès qu'on prie, la parole de Dieu sort. Daniel, il a vécu un temps comme ça où il est en train de prier pour quelque chose de précis. Et ça a mis du temps, mais il est dit que dès qu'il a prié, la parole de Dieu est sortie et a commencé à changer les choses, dans les lieux spirituels en tout cas. Et le temps que ça se manifeste dans les lieux physiques, ça a pris quelques semaines. Mais en tout cas, dès qu'il a commencé à prier, quelque chose dans le ciel s'est passé pour amener l'exaucement de sa prière. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, il faut être de ceux qui persévèrent. Cette semaine, à partir de tout à l'heure, après le culte, et toute la semaine, nous avons un temps de prière et de jeûne. La question qui se pose, c'est comment est-ce que je vais réagir par rapport à ce temps-là? Est-ce que je vais dire, ah, encore de la prière? Je suis fatigué avec la prière. Oh, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas le temps de prier. Bon, de toute façon, la prière, ça sert à rien. J'entendais, quelqu'un m'a dit cette semaine quelque chose de terrible. Un pasteur qui faisait le point avec des personnes de son église pour la rentrée. Donc il demandait, est-ce que vous avez des choses qui vous gênent, qui vous dérangent, qu'on pourrait améliorer? Et alors, ils avaient rien à dire de spécial. Puis tout à coup, ils ont parlé ensemble. Ils ont dit, si, pasteur, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas à quoi ça sert. Ah oui, qu'est-ce que c'est? La prière avant le culte, ça sert à quoi? Le pasteur, il était dépité. À quoi ça servirait de faire le culte sans placer ces moments devant le Seigneur? À quoi ça sert d'apporter la parole si par le Saint-Esprit je n'ai pas disposé mon cœur pour que le Seigneur vienne me remplir et communique quelque chose aux gens qui sont autour? À quoi ça sert de faire quoi que ce soit pour le Seigneur si je n'ai pas pris le temps de le prier? Ça sert à rien. Je peux vous répondre aussitôt, parce que c'est ce que dit la parole. La parole nous dit d'être sérieux. Sérieux avec ces choses. Il y a des personnes qui ont besoin de délivrance, il y a des personnes qui ont besoin de guérison, il y a des personnes qui ont besoin de guérison physique ou de guérison intérieure, peu importe. Mais cette semaine, c'est une occasion de mettre tout ça à plat devant le Seigneur et de chercher la face de Dieu, de dire, Seigneur, je veux que tu me montres ce que tu veux pour ma vie. Soyons sérieux, frères et sœurs, avec la prière. Si nous voulons servir le Seigneur, nous qui sommes sauvés pour servir, nous avons intérêt à faire les choses comme il faut. On va fermer les yeux quelques instants. Je sais que c'est un petit peu rude ce sujet ce matin, mais c'est tellement important de commencer en étant bien encadré par la parole de Dieu. Parce que ça évite des blessures, ça évite des frustrations. Il y a un homme de Dieu qui a dit que la prière c'était la respiration de l'âme. Et combien on voit malheureusement de chrétiens qui sont en train d'étouffer parce qu'ils n'ont pas réalisé cette vérité. Mais quand tu pries, mon frère, quand tu passes du temps dans ta chambre, seul à seul avec Dieu, tu es en train de faire respirer ton âme. Quand tu lis ta parole, tu es en train de nourrir ton âme. Quand tu places les priorités de Dieu avant tes priorités, tu es en train d'être le serviteur qu'il va employer pour sa bénédiction. Qui ce matin veut dire, Seigneur, je veux te servir sérieusement. La semaine dernière, on a déjà pris position si on voulait servir ou pas. Je ne reviens pas sur cette question. Mais je veux te demander ce matin, qui veut servir Dieu sérieusement? Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Seigneur, nous ne voulons jamais oublier que tu es un Dieu juste et saint, pur, sans péché. Et que tu demandes que nous soyons pareils. Aide-nous, Seigneur. Éternel, tu vois ce matin le cœur de mes frères et de mes sœurs qui sont là. Tu connais dans ce lieu aussi la personne qui n'a pas encore fait la paix avec toi. Et je veux te prier pour chacun et chacune en particulier. Oui, que Seigneur, ce matin, il puisse y avoir des personnes qui passent de la mort à la vie par la puissance de ton Saint-Esprit et qui deviennent de ce fait des serviteurs entre tes mains. Parce qu'ils abandonnent leurs péchés. Parce qu'ils abandonnent leur vie pour toi. Que ce matin, il y ait aussi de tes enfants qui se ressaisissent, qui reviennent à toi, qui réforment leur voix et leur cœur pour te servir avec sérieux. Bénis, Seigneur, ce matin. Bénis celui qui va prendre à cœur ces paroles et qui va passer du temps devant toi dans cette semaine de jeûne et prière, mais personnellement chez lui aussi, qui va prendre du temps. pour chercher ta face. Bénis, Seigneur, cette personne. Oui, que ta bénédiction l'accompagne, que la gloire de ton ciel, Seigneur, soit communiquée à une personne qui prend une telle décision, parce que c'est les promesses de ta parole. Oui, nous voulons être sérieux avec ta parole, parce que nous savons tout le bien que ta parole amène sur les cœurs. Amen.